Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonsoir à tous.
Et de Mordren.
Bonjour tout le monde.
Au sommaire de l'actualité, cette semaine, on vous parlera de JV le Mag, on enchaînera ensuite sur The Walking Dead, on parlera du fan remake de Star Wars qui a été annulé, on enchaînera sur Discord, nous évoquerons Electronic Arts qui a des projets pour la saga Command & Conquer, et enfin, on terminera sur la polémique qu'il y a en ce moment autour de Rockstar. Il faut croire que, visiblement, à chaque fois qu'ils sortent un Red Dead, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir ce genre d'histoire, n'est-ce pas? Les problèmes de crunch autour de Red Dead, on en discute tout à l'heure, c'est assez savoureux. Mais avant de commencer cette semaine d'actualité, il faut qu'on fasse un petit erratum. Dans le dernier numéro de l'émission, on a parlé d'un certain projet sur Harry Potter, n'est-ce pas?
Ouais.
Et on a dit que c'était intéressant parce que il y avait Avalanche qui bossait dessus. Sauf que ce qu'on avait oublié, c'est que il y a deux Avalanche en fait. N'est-ce pas? Il y a Avalanche Studio, ceux qui ont fait Just Cause, et il y a Avalanche Software. Ceux, vous savez, quand on en parle, on dit mais c'est qui en fait? Et c'est ça qu'on voulait corriger. Merci à LKBD de nous avoir corrigé dans les commentaires. Surtout quand on fait des boulettes comme ça, il faut surtout pas, n'hésitez pas à nous reprendre, hein, parce que c'est quand même important s'il y a ce type d'erreur. Donc, il s'agit non pas d'Avalanche Studio, mais d'Avalanche Software, qui est un studio qui est principalement connu pour ses jeux de commande. Donc, comme on l'a dit, effectivement, ils ont bossé sur Disney Infinity, n'est-ce pas?
Ouais.
Mais par contre, ils n'ont fait aucun Just Cause, etc.
Ouais.
C'est un studio qui a purement fait des jeux de commande jusqu'ici. On va dire que avec cette information, déjà, on peut se permettre peut-être d'être un peu moins hypé sur le projet. En
c'est
tout
sûr.
Cas, d'être un peu plus dubitatif.
C'est clair.
Voilà.
En tout cas, merci pour ta vigilance.
Merci, LKBD. Allez, on va commencer, messieurs. Et on va débuter Mordren avec un projet... sur Kickstarter, qui, je pense, te tiendra à cœur.
Ouais.
C'est un projet qui concerne JV le Mag, qui nous a fait une Canard PC.
C'est ça.
Parce que tout comme Canard PC, ils sont un peu dans la merde à cause de Prestalis.
Prestalis, ouais.
Il faut le rappeler, c'est un organe qui gère la distribution de la presse en France, qui a eu des difficultés financières il y a pas très longtemps. Et donc, on vous avait fait tout un suivi là-dessus, où on vous avait expliqué que tous les mags indépendants, ou en tout cas de petite taille, étaient dans la merde, parce que Prestalis allait faire du racket, hein, je pense qu'on peut résumer ça à ça, et allait prélever une certaine somme sur chaque magazine vendu, une somme qui n'était pas supportable pour énormément de magazines. On disait aussi, à ce moment-là, que beaucoup de magazines, dont Canard PC, s'étaient repliés sur un autre distributeur qui s'appelle Les Maisons Lyonnaises de Presse. Sauf que, déjà à l'époque, Canard PC était dans la merde parce qu'il n'y avait qu'une partie du magazine qui était migrée. Et surtout, de toute façon, Prestalis menaçait de prélever tout le monde, y compris ceux qui étaient chez les maisons lyonnaises de presse. Pourquoi? Parce que Prestalis s'occupe, entre autres, de la distribution sur une partie du réseau pour le compte des maisons lyonnaises de presse, ces dernières n'étant pas implantées dans un certain nombre de villes en France. Et du coup, on a appris, avec les problèmes de JV le Mag, les montants qui étaient demandés, n'est-ce pas?
Ouais.
Mordren, je crois que c'est un pourcentage qui est pompé chaque mois.
Ouais. 1% de, ouais, du prix de vente de chaque magazine qui est vendu en kiosque pendant les 4 prochaines années.
Voilà. Donc, vous allez me dire, ouais, mais 1%, vas-y, c'est pas beaucoup. Bah, si, c'est beaucoup.
Ouais.
Parce que quand tu es un magazine comme JV, qui est dans un équilibre précaire et qui arrive tout juste à boucler les fins de mois, 1%, bah, ça tue le magazine, en fait.
Ouais.
Voilà. Donc, ils ont ouvert une campagne Kickstarter où ils demandent 40 000 euros, c'est exactement la somme qui va être pompée par Prestalis, tout simplement.
Moins la fameuse dîme que prend Kickstarter, évidemment, pour gérer ses projets.
Tout à fait. Et ils ont ouvert un Kickstarter qui se terminera à l'heure où on enregistre ce podcast dans 18 jours. Donc je pense que quand le podcast sera publié, il dans restera un peu plus, voilà, il restera un peu plus de 11 jours, on va dire, à peu près. Quoi qu'il en soit, évidemment, on vous incite à aller y contribuer si vous êtes intéressé par le magazine. Je veux dire, si vous pensez que JV c'est de la merde, hein, on va pas vous dire d'aller filer des sous, évidemment. Mais par contre, je trouve que c'est un magazine, enfin du peu que j'ai vu, parce qu'à une époque je les achetais régulièrement, je trouve qu'ils font un travail intéressant. Ils ont un format en plus qui est assez particulier dans le magazine du vidéo papier, je trouve. Par contre, moi je me pose juste une question, et c'est la même question que je posais avec Canard PC. Quid des solutions long terme? Parce que là, du coup, il demande 40 000 euros. On n'est jamais à l'abri du fait que Prestalis est de nouveau des emmerdes et demande encore plus. Et du coup, on fait quoi? Est-ce que chaque année, du coup, JV va refaire une campagne Kickstarter pour demander 40 000 balles?
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a des choses qui sont assez intéressantes dans ce qui est dit dans cette campagne, dans ce projet, notamment le fait qu'ils sont sûrs de mettre la clé sous la porte si les 40 000 euros ne sont pas atteints. En revanche, ils sont tout à fait conscients que ça peut très bien également mal se passer, même si les 40 000 euros sont atteints. Ils savent que ce qui va leur permettre d'ajouter à leur trésorerie, c'est de réussir à produire au moins un mag hors série. Et ils parlent d'un mag hors série Mega Drive. Ils ont parlé de leurs quelques premiers mag hors série, et c'est vraiment ceux-là qui font le plus de ventes pour eux. Et c'est aussi ceux qui leur permettent du coup d'intégrer les foyers de personnes qui sont pas forcément abonnées et qui seront du coup de potentiels futurs abonnés.
Des gens qui ne seraient pas forcément intéressés par avoir un mag régulièrement, mais qui pour un espèce de MOOC par exemple, où il y aurait des dossiers, etc., sur un sujet qui les intéresse vraiment, qui seraient prêts à payer pour ça, quoi.
Et d'autant plus que, en général, ce sont des hors-séries qui publient sur des consoles. Donc évidemment, jouer sur la fibre nostalgique des gamers, puisque c'est un peu ça, hein, leur cœur de cible, c'est plutôt des trentenaires, a priori, hein, JV le mag. Donc ils savent très bien que leur clé de survie, c'est la trésorerie, et cette trésorerie, elle sera accessible à partir de ce premier hors-série, qui, eux, chiffrent à 70 000 euros, en fait. Là, on parlait de 40 000 euros, c'est pour qu'ils réussissent à survivre à la vague Prestalis, mais ensuite, ils disent que nous, pour pouvoir produire un hors-série Mega Drive, il faudra que vous nous donniez 70 000 euros. Et honnêtement, moi j'ai peur que les 40 000 euros ne suffisent pas du coup, parce qu'ils nous disent que bah, le mieux, ça serait quand même qu'on ait 70 000. Et pour l'instant, on est quand même assez mal parti pour avoir 70 000. Donc c'est assez dommage. Si jamais vous ne connaissez pas ce magazine, je vous encourage vivement à prendre le numéro 56 qui est en kiosque en ce moment. La couverture, vous la reconnaîtrez, c'est Red Dead Redemption dessus. Le gros sujet réflexion de ce mois-ci, c'est les jeux en monde ouvert. Il y a une preview de Red Dead 2 dedans, évidemment, mais il y a une vraie réflexion sur ces mondes ouverts-là que j'ai trouvé très très pertinente, et je vous encourage à le lire. Et en plus de ça, il y a un reportage sur Good Old Games qui est très très intéressant. Donc c'est vraiment un mag qui promeut un peu la réflexion et le reportage, là où, en général, les magazines JV, il y a une vraie propension à faire du test. Si tu lis la moitié d'un JV le mag, tu ne lis pas de test. Donc si vous ne connaissez pas, essayez, ça vaut le coup.
ATH.
J'aimerais bien souligner ce que montre cette histoire, c'est surtout que, en fait, le problème qu'a Prestalis aujourd'hui, ce n'est pas les différents journaux de presse qui l'ont créé, cette dette. C'est eux-mêmes qui l'ont créé, et après, eux viennent se rabattre sur les journaux pour leur demander un pourcentage sur les ventes.
Alors, juste, je rappelle en vitesse comment fonctionne Prestalis. Prestalis, normalement, c'est une direction collégiale. C'est-à-dire que c'est les journaux qui dirigent Prestalis. Sauf que, vous l'aurez deviné, c'est les grands journaux qui dirigent Prestalis, et ce sont pas les petits journaux. Et le problème, c'est que qui a mis le système dans la merde, ce sont les gros tirages. Parce que, justement, ils tirent trop, en fait. Et du coup, c'est pas rentable, etc. C'est pas les petits magazines hein, qui foutent Prestalis dans la merde. C'est vraiment les grands quotidiens nationaux qui tirent beaucoup trop, sont disponibles dans beaucoup trop de points de presse, etc. Ce qui pose des vrais problèmes sur la distribution que ne rencontrent pas les maisons lyonnaises de presse, par exemple, qui n'ont pas autant de journaux à gros tirages et qui, justement, s'occupent de magazines de taille plus modeste.
Et eux, d'ailleurs, les gros tirages, ils s'en foutent parce que ils peuvent obtenir les subventions de l'État, ce qui n'est pas le cas des petits.
Voilà, juste, excuse-moi, TH, c'était vraiment pour préciser, rappeler le fonctionnement.
Non, non, mais t'as bien fait.
Du système.
Mais enfin, tout, voilà, juste pour dire que tout ça, ça simule plus ou moins à du racket, tout simplement. Comme ce conglomérat, en fait, d'entreprises ont un pouvoir et la main mise sur les petits, tout simplement, ce qu'ils font, c'est des méthodes mafieuses pour moi. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je trouve pas ça normal, aujourd'hui, que des gens qui ne sont pas, entre guillemets, dans ce système-là, doivent payer pour des problèmes que d'autres ont créés à leur place. Les petits ne peuvent pas dire « Ok, bah vous allez vous faire foutre ». C'est-à-dire que s'ils leur disent ça, c'est, ils crèvent la gueule ouverte, tout simplement. Ils pourront pas vendre
leur... Non, mais même quand ils disent « Allez vous faire foutre, on va chez les maisons lyonnaises de presse », on trouve quand même le moyen d'aller les taxer quand ils sont cassés, quoi. Enfin bon, bref, c'est... En tout cas, ce qui illustre bien cette affaire... C'est aussi que personne, et je dis bien personne, n'est à l'abri des problèmes qu'il y a actuellement dans la presse en France. La situation est très 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 grave, quoi. Enfin, il y a une pluralité de la presse qui est en danger pour moi, là, en fait. Et t'as l'impression que tout le monde s'en bat les couilles. Bon, allez, on va maintenant parler, Morgan.
Ouais.
The Walking Dead, encore une fois.
Toutes les semaines, non mais c'est bien, il faut être au courant, quand même.
Bah ça évolue, il y a des infos qui sont intéressantes, donc on en parle.
Ouais, c'est pendant une foire aux questions qui a eu lieu sur Reddit avec le PDG de Skybound qui s'appelle Ian Howe et le directeur créatif qui s'appelle Kent Muddle, on nous a donné des nouvelles qui sont plutôt positives d'ailleurs, sur le projet de reprise du jeu Walking Dead qui de fait a été abandonné par Telltale après la fermeture quasi globale de tous ses emplois. Donc Skybound, c'est une entreprise qui a été créée par Robert Kirkman qui est le créateur des comics Walking Dead, et qui a voulu du coup faire en sorte que le jeu puisse être terminé sous sa bannière. D'après ce que a dit Ian Howe, il s'est pas trop avancé, mais il l'espère, il a rien promis, que l'épisode 3 sorte d'ici la fin de l'année. Il a également donné des nouvelles quant au recrutement d'anciens employés de Telltale pour créer l'équipe à l'intérieur de Skybound qui va terminer cette saison ultime, parce qu'il y avait 4 épisodes qui étaient prévus, il y en a que 2 à ce jour qui sont sortis. Son objectif à lui, c'est de recruter 100% d'anciens employés de Telltale. Il a vu 40 personnes ex-Telltale pour voir s'ils pouvaient travailler ensemble déjà pour terminer cette saison. Pour l'instant, évidemment, on en est encore au stade, légal de toutes les tractations entre Telltale et Skybound. Donc pour l'instant, ça reste encore au stade des avocats qui dealent leurs choses, mais son objectif, c'est d'aller le plus vite possible, une fois que ça s'est fait, dans le recrutement d'ex de Telltale, et de terminer au plus vite, au moins l'épisode 3 cette fin d'année. Voilà, et puis l'épisode 4, du coup, en début d'année prochaine.
Bon. Je vais faire mea culpa, j'étais une langue de pute, je pensais que ça n'arriverait jamais, ce genre de truc. Par contre, honnêtement, ce sera la meilleure solution. Parce ouais. que là, pour le coup, on veut recruter les anciens employés, en plus, c'est la boîte du mec qui a fait les comics, donc là, ouais. on peut pas faire mieux, je pense. On peut pas faire mieux.
Ouais, bah ce qui est cool, c'est comme t'as dit, c'est le créateur en fait des comics The Walking Dead qui reprend le projet, et on sent bien que bah la licence lui tient à cœur, et qu'il veut mettre des billes pour que justement les fans de la série qui joue uniquement sur support vidéoludique puisse avoir une conclusion à l'histoire qu'on leur avait promise à la base. Et franchement, c'est rare en général que voilà un créateur d'univers puisse avoir la main mise sur son œuvre et que quand il y a des adaptations qui sont faites dans tel ou tel support, qu'il puisse revenir là-dessus et justement proposer à ce qu'on éventuellement puisse finir une œuvre à la place de quelqu'un d'autre, parce que les mecs vont gérer ça comme des branques. Voilà, c'est louable. Et en plus de ça, si les mecs de chez Telltale arrivent à avoir du boulot et que c'est proche de chez eux et qu'ils sont pas obligés d'aller à l'autre bout des États-Unis, ça serait plutôt cool, quoi.
Maran.
Moi, la vraie question que je me pose dans cette histoire, c'est une fois que ces deux épisodes seront terminés, est-ce que ces ex-employés ont encore une perspective chez Skybound? C'est ça qui, moi, à mon avis, déterminera la volonté de ces gens qui ont été jetés comme des vieilles chaussettes il y a quelques semaines, de réintégrer un projet qui leur a fait du mal, à mon avis, psychologiquement. Est-ce que, du coup, c'est juste pour une période donnée de quelques mois? Est-ce que c'est dans une volonté plus large de Skybound de faire du jeu vidéo, en interne? Ça pourrait aussi faire pencher la balance pour ces ex-employés de Telltale. Parce que, à mon avis, si tu te mets à la place de quelqu'un qui vient de se faire virer sans indemnité de licenciement, d'un projet qui visiblement a demandé énormément de temps et d'investissement en termes de crunch time. Est-ce que t'as vraiment envie de te remettre dedans alors que tu viens d'en sortir?
Après, justement, Morin, j'ai envie de te dire, est-ce que t'as vraiment le choix?
Ouais, aussi. En fait, le truc, c'est que il y a des gens qui ont probablement réussi à réintégrer l'industrie. Donc ça, c'est des gens qui, a priori, ne reviendront pas chez Skybound. Mais là où ça peut être hyper important, c'est les gens qui n'ont pas encore retrouvé. Ça leur permettrait de rebondir un peu. Mais à ce moment-là, où est-ce que ça se passe? Dans quelle ville? Dans quel studio? Tu vois, c'est, il y a aussi des impératifs administratifs là-dedans. Et si c'est uniquement pour quelques mois, moi, jamais je déménage, en fait, hein, pour travailler juste quelques mois sur un jeu. Il y a aussi toute cette dimension humaine-là qu'il faut prendre en compte.
Tu as tout à fait raison. Allez! Bah, justement, dimension humaine. Ça, on connaît pas. Chez Lucasfilm, l'humanité, ça passe pas très lourd hein, à côté de l'argent, n'est-ce pas? Donc, je le rappelle, il y a quelques mois, un remake des Star Wars Knights of the Old Republic est annoncé, du premier épisode.
On en avait
épisode.
Parlé ici même, d'ailleurs.
Oui, je crois, il me semble.
Ça me dit
un remake
chose.
Qui était prévu sous Unreal Engine 4. Alors, c'est comme d'habitude, hein, avec les annonces de remake de Fallen. Tu sais pas si ça arrivera au bout, mais tu trouves l'initiative chouette. Puis si ça peut leur permettre de se faire un CV, pourquoi pas. Mais bon, ce qui devait arriver, hélas, arriva. C'est-à-dire qu'ils ont reçu un beau courrier de Lucasfilm que je vous mettrai dans les commentaires de l'émission, signé, je crois, de leur avocat, il me semble. Enfin, bref. En gros, on leur demande d'arrêter le projet. Merci, au revoir. Voilà. Bon, d'un côté, je vais pas faire l'étonné, hein. C'était prévisible. De l'autre, franchement, alors je sais qu'on va encore me dire, oui, c'est le droit américain, ils ont pas le choix. Écoutez, s'il vous plaît, les gens, il y a des tonnes de boîtes qui ont laissé des fan remakes se faire et qui sont pas, enfin, faut arrêter avec ça, quoi. C'est, y a pas besoin que ce soit systématique comme ça et totalement à l'aveugle. Là, il y a le remake de Metroid qui est sorti. Alors certes, Nintendo a attendu que le remake soit sorti pour tomber sur le gars, mais en tout cas il est sorti le truc, hein. Donc on va pas me faire croire qu'il y avait pas moyen, genre de faire genre ouais bon il est sorti, ah merde, oh tiens on n'avait pas vu ce remake, il est sorti, ah non faut l'interdire, c'est pas bien. Non là ils ont tué le projet dans l'œuf, quoi. Donc qu'on me fasse pas croire que c'était pas possible d'être moins con sur ce genre de problématique.
Dans ce genre de sujet, c'est comme toujours, t'as toujours la question qui se pose du est-ce que c'était vraiment la peine de l'annoncer. Parce qu'au final, le jeu, tu l'annonces pas, tu ne fais que le sortir, au moins t'as quelques gens qui peuvent en profiter de ton remake, tu vois. C'est-à-dire que au bout d'un moment, peut-être que avec un peu de chance, t'as un petit malin qui va le faire passer en sous-main sur des sites de torrent, machin et tout, tu vois. Et à ce moment-là, bon bah, il y a eu un cease and desist, certes, mais c'est plus dans leurs mains, tu vois. Ça, c'est possible. Mais pourquoi est-ce qu'on communique à chaque fois à l'avance sur ces trucs-là, alors que on sait très bien comment ça va se terminer. Alors, je peux comprendre que, évidemment, un développement comme ça, c'est hyper long et hyper fastidieux.
Il y a besoin de reconnaissance, hein, tout simplement.
Voilà, t'as besoin d'en parler pour que, au moins, ça t'apporte un peu d'essence à ton moteur, qui est la passion. Donc, si tu vois que les gens sont aussi passionnés que toi et ont hyper envie de jouer à ton remake, je pense que ça te rebooste de ouf, même si ça te donne pas de thunes, si tu veux. Et donc je pense que c'est pour ça que ça arrive encore, ce genre de souci-là, c'est que t'es obligé au bout d'un moment de le partager avec quelqu'un, histoire que t'aies un peu de reconnaissance. Le souci, c'est qu'à chaque fois, ça va se terminer comme ça.
Bon, ça plus le fait que, à mon avis, dans l'eau, il y en a quand même quelques-uns qui savent très bien qu'ils finiront jamais le projet. Mais qui se disent, bon, ça me fera une mission CV, quoi. ATH.
Oui.
Après, ce qui est dommage à chaque fois, c'est que quand est-ce qu'une œuvre peut rentrer dans le domaine public? Parce que Star Wars, ça date quand même de fin des années 70.
Ouais, mais là, on parle de Disney. Hein.
Non, oui,
donc,
non, mais
c'est les pros hein, pour le domaine public et justement l'éditer.
C'est à cause de toute façon que le domaine public est mort. Hein. C'est à cause de Disney, hein. C'est Mickey hein, qui fout la merde. Hein.
Non, je sais. Et c'est ça qui pose un problème, c'est que voilà, à partir d'un certain moment, moi, je pense qu'il est tout à fait estimable qu'une œuvre rentre dans le domaine public et que n'importe qui peut s'approprier. C'est un peu comme tu vois les musiques, par exemple, qu'on entend dans les films, qui sont libres de droit, des musiques qui sont des classiques que tout le monde reconnaît aujourd'hui au premier coup d'oreille. Voilà, ça serait bien que aujourd'hui d'autres œuvres puissent être réappropriées par d'autres personnes. et que ces œuvres-là justement rentrent dans le domaine public parce que c'est des œuvres qui ont tellement contribué et qui ont tellement marché qu'on les connaît directement. Par exemple, même en parlant de Disney, par exemple, Mickey, c'est une mascotte qui est quand même reconnue à l'international, mondialement, depuis de très longues générations. Et voilà, c'est un petit peu dommage que quand il y a une telle mascotte que personne ne peut se la réapproprier parce que
Mais on parle de marque en fait maintenant, on parle même plus d'œuvres en fait.
Ouais, mais surtout que en plus pour la culture en général, je pense que cette absence de domaine public est profondément nuisible, parce que du coup, ça incite des boîtes comme ça à se reposer sur leur laurier, à ne plus rien sortir de nouveau, à se reposer constamment sur la nostalgie. On réutilise tout le temps les mêmes symboles, les mêmes mascottes, les mêmes machins, et on ne sort plus rien de nouveau, en fait, quoi. Enfin, c'est ça le truc, quoi. On préfère toujours se reposer sur les licences qu'on a, qui sont éprouvées, qui ont fait leurs preuves, et de toute façon, dans 100 ans, la licence, elle nous appartiendra toujours, plutôt que faire quelque chose de nouveau, de neuf, quoi.
Le plus gros problème à Hollywood en ce moment.
Pas qu'à Hollywood, hein,
le plus paradoxal quand même, c'est quand ces grandes entreprises te disent, par exemple, comme les studios comme Universal, qui ont repris King Kong, qui était une œuvre universelle, et qui l'ont réapproprié à leur sauce. Et quand Nintendo a sorti le premier Donkey Kong à l'époque, Universal avait tenté un procès à Nintendo parce que ils reprenaient Donkey Kong et que ça leur appartenait. Et ben, Nintendo, comment ils se sont justifiés, enfin, ils ont gagné leur procès face à Universal en disant, King Kong est une œuvre publique que vous avez vous-même repris. C'est une œuvre qui appartient au domaine public. Donc, à partir de là, n'importe qui peut la reprendre. Et Nintendo ont réussi à gagner leur procès. Mais tu vois, ça, c'était bien avant. C'est marrant parce que, d'un côté, eux, ils veulent bien reprendre des classiques du domaine public. Mais par contre, dès que, ils ont une marque qui est déposée, alors toi, c'est hors de question que tu y touches, mon pote.
Ah bah, évidemment.
Je veux rappeler quand même une chose, hein. Le droit d'auteur, à la base, ça n'a pas été conçu pour protéger les auteurs de leur public, hein.
Non.
Ça a été conçu pour protéger les auteurs des autres auteurs. Enfin, de leurs concurrents, quoi, en gros, et les entreprises de leurs concurrents, tout simplement. Et ça a aussi été conçu pour favoriser l'innovation. Parce que on dit quand même, ok, d'accord, t'as quand même investi pour innover dans un produit, t'as quand même investi pour créer une œuvre, etc. On te laisse, pendant un temps, le bénéfice de cette œuvre, pour que tu en tires les fruits. Mais par contre, au bout d'un moment, on met tout ça dans le domaine public pour que ça profite à tout le monde, quoi. Ce qui est, pour moi, quelque chose de simple et d'incroyablement intelligent, en fait, tu vois. C'est bénéf pour tout le monde, en plus. C'est-à-dire que le mec qui a conçu le truc, il a un intérêt à le faire parce que pendant un temps, il a l'exclusivité du truc. Mais ensuite, ça profite à tout le monde. C'est super comme système. Et on a foutu tout ça en l'air parce que Mickey, voilà.
Mais d'ailleurs, là, il y a un autre problème qui va se poser, justement, en parlant de domaine public, c'est Superman. Parce que Superman va bientôt rentrer dans le domaine public. Mais par contre... Bah, je pense pas que DC va laisser faire les choses comme ça, quoi.
Oui, ils vont se débrouiller, t'inquiète.
Ouais, ouais, voilà, ça me choquerait pas que la loi risque de changer d'ici peu.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe à la suite. Et on va parler de Discord, mon cher Morren. Il y a eu du changement du côté de Discord cette semaine. Ils ont sorti une boutique. Alors, vous allez me dire, une boutique en plus, OZEF. Mais non, parce que c'est une boutique en plus, certes. Mais c'est une boutique quand même qui propose un service de location. Ou pour 10 balles, je crois qu'on a des choses intéressantes, n'est-ce pas?
Ouais, c'est 10 dollars par mois, et il y a un certain nombre de jeux, alors je les ai pas comptés, mais il y en a pas mal. Alors c'est pas des jeux qui sont de prime jeunesse, encore que, mais c'est des jeux qui, indéniablement, sont des jeux de qualité. Je vais vous en citer quelques-uns, il y a Abzu, il y a Brutal Legend, il y a Dandara, il y a les deux Darksiders, il y a les deux de Blob, il y a FTL, Faster Than Light, il y a Inside, il y a Limbo, me semble-t-il, il y a les deux Kingdoms. Il y a Monaco, Seasons After Fall, Risk of Rain, Soma, Super Meat Boy, This War of Mine, Tooth and Tail, les deux Torchlight et les trois Trine, et Wasteland 2. Enfin bref, c'est beaucoup de jeux, d'ailleurs, dont on vous a parlé, me semble-t-il, dans le podcast. Des jeux qui sont reconnus comme étant de qualité, donc il n'y a pas que de la merde. Et l'air de rien, l'offre se tient, quoi, parce que tu payes 10 dollars sur un mois et t'as accès à tout ça. Alors, je vais vous avouer quand même que avec Tyron, on a une petite interrogation, c'est bah, comment ça fonctionne tout ça, parce que bon, nous on n'est pas abonnés Nitro, hein, à Discord, et on sait pas si du coup tout est géré dans le client Discord, si du coup un DRM ou pas, ou alors si tu télécharges l'exé du jeu, comme c'est le cas d'ailleurs sur GOG.com, c'est un peu la question qu'on se pose. On n'a pas testé, on s'est pas abonné pour voir, mais voilà, si vous avez un retour d'expérience, n'hésitez pas à nous le faire remonter.
Parce que je vous avoue, bon, je veux bien faire des efforts pour vous les gens, mais je vais pas payer 10 balles pour voir. Oh, pour voir comment ça marche exactement. Tirant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Ça propose une alternative, quoi, en fait. Et c'est moi, c'est toujours ce que j'ai dit, c'est-à-dire que si l'idée, c'était en gros de dire on va faire de la location et maintenant ça sera que de la location, hein, bande de connards. Là non, je suis pas d'accord. Hein, non, forcément. Ouais. Par contre, si on me dit nous on sort un service, on est concurrent de Steam, mais on propose autre chose, c'est cool. Et puis je veux dire, la location de jeux vidéo, moi ça existait du temps où il y avait des cartouches, hein, donc pourquoi ça n'existerait plus aujourd'hui ?
Bah c'était pas légal à l'époque. Voilà.
Il y a un truc intéressant aussi avec cette volonté de Discord de concurrencer Steam, hein, très clairement, c'est des petits jeux qu'ils appellent découverts sur Discord, puisque ce sont des jeux indés qui vont avoir une période d'exclusivité sur la boutique de Discord, soit c'est 60 jours, soit c'est 90, mais bref, l'idée c'est que Discord va essayer d'aller dénicher des petits jeux comme ça, et les proposer en exclusivité temporaire évidemment, sur sa plateforme. C'est quelque chose que Steam ne fait pas, évidemment.
Après, tu vois, je suis pas sûr d'être fan du concept d'exclusivité temporaire. J'ai suffisamment gueulé sur console pour pas forcément... mettre en avant des jeux, tu vois, ça, je suis pour. Mais avoir un système d'exclus comme ça, ouais, c'est pas...
Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Le côté exclusif, c'est un peu chiant. En revanche, le côté curation, ça m'intéresse, par contre.
Par contre, faites quand même attention si vous êtes tenté par l'offre. Faut quand même savoir qu'il y a certains titres qui resteront payants à un prix fixe et qui ne sont pas dans le système d'abonnement. Il faudra quand même regarder au cas par cas si vous êtes intéressé par l'offre et voir si justement tel ou tel jeu rentre dans cette catégorie ou pas.
Ouais, faites attention à pas vous faire avoir, hein. Cliquez bien dans le menu déroulant tous les jeux Nitro si vous êtes intéressé par l'abonnement. Parce qu'évidemment, tous les jeux qui sont très très récents a priori ne sont pas dans l'offre Nitro. Et du coup, encore une fois, autre point d'interrogation, à quelle fréquence l'abonnement Nitro et son catalogue va être mis à jour ? Ça, c'est aussi une question qui peut se poser. Parce que si c'est tous les mois, pourquoi pas ? Mais alors combien de jeux ? Tout ça, c'est des questions qui sont intéressantes à poser, puisque là, clairement, on est dans le domaine du Netflix du jeu vidéo. C'est un peu la chimère en ce moment. Comment il fonctionne, ce Netflix du jeu vidéo ? Parce que c'est aussi ça, hein, le catalogue.
Mais aussi du point de vue de la rémunération des développeurs. Ça, on ne le saura jamais, hein, mais je t'avoue que je me dis, mais attends, comment tu fais pour rémunérer un développeur avec un système comme ça ?
En termes de statistiques de jeu, je suppose.
Il y a aussi le cas avec Microsoft, avec son Game Pass, où il y a quand même les grosses exclusivités Microsoft maintenant qui arrivent pour 10€ par mois. La dernière grosse exclusivité, c'est Forza Horizon 4 qui arrivait en Day One, où tu pouvais jouer justement à Game Pass. Mais ça, moi, je pense que uniquement pour Microsoft, enfin, sur le long terme, ça risque de leur poser préjudice, parce que un jeu comme ça, comme Forza Horizon 4, ça peut ramener du monde. Mais admettons que tu prends le Game Pass juste pour un mois, tu fais ton jeu, t'as payé 10€, et Dieu sait qu'il manque pas mal d'exclusivités sur la console de Microsoft pour justement, tu vois, y revenir assez fréquemment. Et donc, pour le consommateur, c'est très bien. Moi, y a pas de souci, hein. Mais pour eux, je sais pas comment ils font pour entrer dans leurs frais. Surtout qu'ils doivent payer aussi tous les jeux qui sont des éditeurs tiers, qui sont aussi inclus dans le Game Pass. Enfin, je sais pas du tout comment ça marche, et le système de rémunération, c'est vrai que ça mériterait d'être un peu plus clair là-dessus.
Tu sais ce que c'est exactement ce que disait Morin tout à l'heure sur les jeux indés. Il disait « Ouais, bah, ça serait bien si un jour j'ai un mois de libre, je prends un abonnement chez Discord et là, j'enchaîne direct. »
Non mais c'est pourquoi c'est en privé ? Enfin, si bien t'as sûr. L'occasion de le faire et de payer moins cher, de payer le prix d'un, entre grosso modo, d'un ticket de cinéma pour te faire la razzia du jeu indé sur le store, et que c'est la boutique qui te le fait de manière totalement légale, après, faut pas venir se plaindre, quoi. Enfin,
c'est des problématiques qui existent depuis que la location existe.
Oui, bien sûr. Mais oui.
C'est toujours avoir quelque chose à renouveler dans son catalogue, en fait, c'est pour toujours refaire venir les gens, quoi. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Et autant dans le cas de Microsoft, honnêtement, je suis pas convaincu parce que c'est une seule boîte, Microsoft. Hein, je veux dire, ils peuvent, certes, ils ont du pognon, mais pour fournir du contenu régulièrement, quand même, bonne chance. Autant le Discord, je suis déjà plus optimiste parce que c'est ouvert à tous, quoi, en fait. Ouais. Et du coup, s'ils arrivent à convaincre les développeurs de leur modèle économique, il y a moyen que ça marche.
Je suis quand même très curieux de savoir si c'est valable pour un développeur d'être dans Nitro. Je m'imagine en fait que Discord leur a donné un chèque pour faire partie des ambassadeurs de leur service. Rappelons quand même que c'est une bêta, hein, bien sûr. A priori, ils vont rester au catalogue pendant quelques mois, pas beaucoup plus. Et est-ce que c'est vraiment rentable pour eux ? Je suis pas certain.
Ouais, et par contre, juste pour finir sur ce système d'exclusivité lié à telle console ou à tel store, Enfin, moi, je trouve ça aussi complètement nul, hein. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien avoir une console PC
long, hein.
Où, justement, tu peux avoir accès à tous les jeux, que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo, divers indépendants, et que, justement, tout le monde puisse être en concurrence sur n'importe quelle plateforme.
Ouais, mais après, c'est toujours la même question, si tu veux. C'est, est-ce que le constructeur, il aurait investi de l'argent dans ses jeux si c'était pas exclusif à sa machine? Autant je pense que les exclusivités avec les éditeurs tiers, oui, c'est de la merde. Autant les exclusivités constructeurs, enfin moi ça me paraît pas déconnant en fait quoi. Enfin c'est leur machine, ils veulent la promouvoir. Ouais. Bon, certes c'est dommage de pas avoir le jeu sur un autre support, mais est-ce qu'ils auraient investi dans des studios de développement pour se faire du cash alors qu'ils ont des moyens tellement plus rentables de se faire du cash en étant juste un fournisseur de services en fait? J'en suis pas convaincu, quoi.
C'est ta seule manière de te démarquer.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pour ça qu'on est d'accord que le système aujourd'hui de console continue à perdurer grâce à ça. Mais c'est chiant d'acheter une console ou une machine juste pour pouvoir jouer à deux ou trois titres sur cette machine.
Ah bah ça, oui,
ah,
on
ça,
est d'accord.
On est d'accord.
Je te confirme, ça me fait chier, hein, moi, d'acheter une PS4 juste pour Red Dead 2, hein. Très honnêtement.
Ouais, voilà. Bah, moi, bon, voilà, ça me ferait chier d'acheter une Switch juste pour jouer à Zelda Breath of the Wild et Mario Odyssey, tu vois.
Et ça me fait d'autant plus chier que je sais que Red Dead 2, il va arriver sur PC. En plus. Mais
ouais,
j'ai pas envie d'attendre.
Ça,
ouais,
contre,
oui.
Tu sais, il y en a, ils ont dit ça sur Red Dead 1, ils attendent encore. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Non, mais bon. Red Dead 1, il est jouable sur PC, hein. Mais par contre, il faut passer par le PS Now.
Ou alors, il faut passer par l'émulation.
Ouais,
ah,
mais
après,
je sais pas si il est émulable facilement sur la 3.6 et la PS3 sont émulables sur PC.
Ah, la PS3, il commence à y avoir des gros progrès dessus.
Bon, bah voilà. Fallait juste attendre 10 ans et puis Red Dead arrive sur PC de manière
normale. C'est ce que je te dis, j'ai pas envie d'attendre.
Bon, messieurs, je vous propose, bah, justement, hein, Morren, tu nous tends des perches. Ah non, désolé, faux départ. J'ai une pique à lancer avant. Non, parce que Electronic Arts, juste faut qu'on discute là. Bon, Electronic Arts a sorti un jeu mobile dégueulasse sur la licence Command & Conquer. Ça ne vous a pas échappé, hein. Je crois que j'avais gueulé à l'époque même quand ils avaient annoncé ça. C'était pas en l'E3, il me semble qu'ils avaient fait cette annonce du malaise
total.
C'était
tellement
gênant. Ouais, le malaise sur scène où on jouait un jeu mobile...
on
peut faire en
croire que c'était e-sport ready et tout, c'était génial.
Avec des influenceurs entre guillemets qui étaient là et qui genre étaient à fond dans le trip alors que c'était complètement moisi quoi.
Voilà. Donc apparemment ils essaient de se refaire une image en ce moment. En gros, ils ont fait une annonce comme quoi ils envisageaient de sortir un remaster du premier épisode. Voilà. On a fait un petit peu de la merde, on a bien entendu que vous étiez pas content quand on a sorti cette merde. Donc rassurez-vous, on va peut-être sortir un truc. Bon. Venant d'une boîte comme Electronic Arts, et au vu de la philosophie de cette boîte, je sais pas si j'ai envie que vous touchiez à cette licence, en fait. Juste, en fait, tout ce que je vous demande, laissez-la mourir, s'il vous plaît. Laissez-la en paix, quoi, s'il vous plaît. Allez saccager toutes les licences que vous voulez. Allez tuer BioWare, si vous voulez, mais laissez, s'il vous plaît, Leave Command & Conquer alone, please. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire.
Non, mais surtout que, enfin, Command & Conquer, voilà, c'est des jeux qui sont sortis quand même depuis pas mal de temps. Je pense que les gens qui apprécient la licence ont déjà joué. Donc, pourquoi sortir un simple remake quand ils ont les moyens et le budget pour créer de nouveaux jeux sur la licence, quoi. Enfin, je pense que tout le monde aujourd'hui serait plus hypé.
Parce que ATH, c'est toujours moins cher de faire un jeu en 1:1 avec des plus beaux graphismes que d'avoir un vrai nouveau projet ambitieux dans un genre en plus qui est à l'abandon, hein, parce que ça, c'est... même si Amorren et moi, ça nous fend le cœur de le dire, le RTS, c'est un genre qui est pas très en forme, tu vois.
Ouais. Enfin, tu crois quand même pas qu'ils vont faire un nouveau jeu from scratch.
Non, mais attends, mais là, c'est là où je suis pas d'accord, justement. C'est parce qu'aujourd'hui, quand tu vois des jeux sur Kickstarter qui arrivent à faire des jeux de ce type-là avec beaucoup moins de budget, rien n'empêche Electronic Arts de pas mettre beaucoup de moyens, mais de mettre juste les moyens qu'il faut pour avoir un jeu comme ça et de pas faire forcément le gros triple A de Command & Conquer, mais de faire un jeu qui est tout à fait honnête et maîtrisé sur le point de vue du budget et que les mecs apportent des idées sur le game design et sur ce chose-là et qui les présentaient justement parce que c'est des jeux qui, entre guillemets, parlent à une niche de personnes. Voilà, ça peut très bien rentrer dans la frais. Il y a des jeux qui arrivent très bien à faire.
T'as mis le doigt dessus, en fait. T'as dit le mot niche.
Ouais.
Et
ouais.
Clairement, un éditeur comme Electronic Arts, ce qui l'intéresse, c'est pas la niche.
C'est le profit maximum.
Voilà, c'est le profit maximum. Donc clairement, rentrer dans ces frais, ça l'intéresse pas à EA. ce qui l'intéresse, c'est de faire le plus possible, en fait.
Ils ont bien des jeux comme Unravel et Unravel 2, on peut dire ce qu'on veut du jeu.
Ça, c'est des projets d'image, ça. C'est autre chose.
Et bah, Konami, en tout cas, ça pourrait être aussi...
Non, mais après, ça, c'est vrai que ça aussi, c'est un projet d'image. Je veux dire, s'ils se font chier à faire un remake, à mon avis, c'est pour dire, ok, d'accord, on a compris que ça vous a pas plu, le jeu de mobile de merde, donc du coup, on va sortir un jeu comme un Conquer. Bon, par contre, du coup, je me pose une question. Alors, si vous faites ça pour Command & Conquer, pourquoi vous avez pas fait ça pour Dungeon Keeper?
Parce que...
Non, non, parce que je rappelle qu'ils ont fait encore plus dégueulasse avec Dungeon Keeper. Non, mais bref. Voilà. Donc, bref, excuse-moi, du coup, Morden, je t'ai cassé ta transition. Hein. Non, parce que là, il faut qu'on parle, Morden. Ouais. Il faut qu'on parle de Red Dead Redemption 2. Et surtout, des conditions de travail assez particulières, visiblement, des employés.
Ouais, c'est un sujet qui serait passé à la trappe, en fait, hein, si le gars avait parlé une semaine plus tard. Parce que clairement, il y a qu'une seule chose qui est ressortie de l'interview du New York Magazine de Dan Houser. Dan Houser, pour rappel, c'est le cofondateur de Rockstar, qui est aussi très très impliqué dans l'écriture des jeux Rockstar, que ce soit les GTA ou les Red Dead. Et il était là en train d'étaler comment son jeu était incroyable, avec des centaines de millions d'animations, des centaines de personnages, des centaines de milliers de lignes de dialogue, machin et tout. Et puis, dans cette phase-là, il s'est dit que ça serait bien de dire que ce projet lui a demandé énormément de temps de travail. Et il s'est dit, ça serait bien de dire que on a travaillé des semaines de 100 heures, plusieurs fois dans l'année.
Mais ferme ta gueule.
Voilà, et c'est là que patatras.
J'aurais aimé être à la place du responsable Pierre qui était derrière lui, qui était là. Non, 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 ta gueule.
Pas ça. Dan, non. On s'en parle de plus en plus dans le podcast, vous le savez, c'est des problématiques auxquelles les gens sont de plus en plus habitués et sur lesquelles pas mal de journalistes font de la pédagogie autour de ce sujet-là. La problématique du crunch dans l'industrie du jeu vidéo, c'est quelque chose de très très prégnant et de très problématique. Et il y a quelques semaines, on enterrait Telltale Games justement sur ces problématiques-là, donc c'est assez maladroit.
Ah là, en termes de timing.
Ouais. En termes de timing, on pouvait pas faire mieux. Et donc, une semaine avant la sortie de Red Dead 2, clairement, il serait peut-être un petit peu passé de ça. Du coup, Dan Houser s'est ravisé un poil plus tard dans une interview par la suite où il disait que ça ne s'appliquait qu'à quelques personnes, moi et ma team d'écrivains. Et sinon, personne n'est forcé de faire des heures supplémentaires, on n'a absolument pas industrialisé ces choses-là, et de toute façon, ça a été extrêmement ponctuel sur le lancement du scénario de Red Dead 2. À savoir que on a depuis appris que Dan Houser était un mec qui, clairement, est capable de ne pas dormir, et qu'au final, sa team fait un petit peu la même chose que lui sur les débuts de projet. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans l'enquête de Pixel chez Le Monde. Très intéressant à lire. C'est donc William Oduro, le journaliste de chez Pixel au Monde, qui a fait des interviews d'anciens employés de Rockstar, qui confirment qu'il y a eu, en tout cas, une espèce de culture du crunch à l'époque, notamment de GTA V et avant, qui disait que notamment les studios de QA, qui se trouvent en Inde pour certains, ont énormément de pression sur les épaules. Ou en tout cas ont eu, puisqu'on parle d'anciens employés, puisqu'il n'a pas pu publier d'entretien avec des employés actuels de chez Rockstar, et c'est là que il y a eu un nouveau développement sur cette affaire de conditions de travail chez Rockstar, parce qu'il y a pas mal de ramifications, l'air de rien, qui sont sorties de cette phrase-là de Dan Houser.
Rockstar contre-attaque.
Exactement. Rockstar a donné la possibilité à envoyer un mail à ses employés actuels en leur disant « D'habitude, on vous interdit de parler de vos conditions de travail sur les réseaux sociaux, ouvertement, machin et tout. On lève cette interdiction. Si vous avez envie de parler de vos conditions de travail à l'heure actuelle, publiquement, allez-y. » Et il y a eu un certain nombre de témoignages qui sont publiés sur les réseaux sociaux qui, justement, tendent à pas invalider, mais à essayer de dire non, la culture du crunch chez Rockstar s'est beaucoup beaucoup calmée. Il y a de temps en temps eu effectivement des périodes de voilà, mais pas autant que ce qu'on le dit.
Non mais sérieusement, attendez, vous voulez vraiment qu'on parle de cette escroquerie là? Non, parce que bon, moi je veux bien croire que ces employés là ils sont honnêtes, mais moi je sais pas, je vous pose la question, je fais appel à l'intelligence de nos auditeurs. Est-ce que vous croyez une seule seconde qu'un employé mécontent de Rockstar va aller poster sur Twitter « Ouais, mon taf, c'est de la merde, je fais des heures pas possibles, ça cause des problèmes avec ma famille, etc. Putain, Rockstar, c'est vraiment de la chiotte de bocher ses yeux, quoi. » Est-ce que vous croyez vraiment que ça va arriver, quoi?
Sincèrement, je pense que nous vivons dans un monde démocratique et je pense que n'importe quel employé de chez Rockstar pourrait dire oui. Par contre, je pense pas qu'il garderait son travail très longtemps par derrière.
Voilà, donc c'est toute la problématique de ces prises de position publiques sur les réseaux sociaux, c'est qu'on sait que de fait, il y a des gens qui sont chez Rockstar à l'heure actuelle qui sont très heureux de leur taf et ils sont très heureux de leur charge de travail qui tourne autour de 40-45 heures par semaine a priori, ce qui est a priori tout à fait crédible au Royaume-Uni ou aux États-Unis pour la plupart de ces employés-là. Le seul vrai souci, c'est que le silence d'autres personnes qui pourraient ne pas être contentes, est-ce qu'on doit l'interpréter parce que, un, il y en a pas, ou deux, parce qu'ils se musaient eux-mêmes? Et ça, c'est évidemment la question qui va se poser.
Juste, je pose aussi cette question, pourquoi? Parce que je rappelle quand même que j'étais un peu dans cette situation, tu vois, enfin, dans la situation, en tout cas, d'être dans une boîte de merde. Moi, je peux dire que si mon patron m'avait dit, non, mais allez poster sur les réseaux sociaux pour dire ce que vous pensez de la boîte, j'aurais jamais dit ce que je pensais vraiment de la boîte. Hein.
Clairement, c'est sûr, mais non, mais après, enfin, sauf si tu comptes te faire virer, quoi, juste derrière.
Oui, voilà. Par contre, les employés qui étaient très contents, et il y en a toujours dans ces boîtes-là, pour des raisons où ils seraient Y, ouais, je suis sûr qu'ils seraient allés poster, ouais. Mais est-ce que c'est représentatif de la boîte?
Ouais.
Voilà, quoi. Donc, c'est, permettez-moi, si vous voulez, d'émettre au moins, à minima, un doute sur la question, quoi. Surtout que c'est un secret pour personne que, malheureusement, dans cette industrie, c'est limite considéré normal chez un certain nombre de studios de faire ce genre d'horaire, quoi.
Enfin, déjà, il y a eu quand même un cas où, concernant Rockstar, où les femmes des développeurs avaient envoyé des lettres concernant l'état moral et physique de leur conjoint, parce qu'ils ne les voyaient plus, tout simplement, à la fin de Red Dead premier du nom. Il y avait aussi eu le cas chez Steam, enfin Valve à l'époque, où des personnes ayant travaillé sur Half-Life disaient dormir sur place pour terminer le jeu. Les conditions de travail concernant le crunch dans le jeu vidéo, en fin de développement surtout, ça arrive dans quasiment tous les jeux qui sortent. Par contre, il y a des gens que j'ai vus, que ça soit sur les forums, que ça soit sur Twitter, dire, parce que le jeu va être un truc totalement fou et jamais vu, on peut se permettre de laisser les gens travailler comme ça dans la merde. Honnêtement, Internet, là, je vous pose une question très simple. Est-ce que si ça serait vos parents, ou bien vous-même, ou quelqu'un de votre famille, un proche à vous, qui serait dans cette situation-là, est-ce que vous l'accepteriez tout simplement?
Ah non, mais je suis d'accord avec toi, ATH. Il y a aussi le fait que c'est un jeu qui est tout à fait particulier, qui est ciblé par ça. C'est-à-dire que c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, que dans la tête des gens, c'est déjà le jeu de l'année, voire de la décennie. Non, mais c'est vraiment ça. Oui, et ça serait n'importe quel autre jeu, je pense que ça serait pris différemment. Mais ce jeu-là, il a déjà un capital sympathie incroyable chez les gens.
Bah, c'est comme les histoires avec CD Projekt, quand il y a eu des employés qui sont pleins, etc. On en a vu des gens venir défendre CD Projekt et tout. Enfin, je suis désolé, il y a des choses quand même qui, si elles sont avérées, parce qu'encore une fois, moi, j'en sais rien, tu vois.
Ouais.
Mais moi, je te dis que par contre, si c'est avéré, non, c'est pas normal, quoi. Voilà.
Et c'est là que, à mon avis, le travail des journalistes va prendre un peu de temps à élucider un petit peu cette affaire. On en entendra parler un peu plus tard. Je sais que chez Kotaku, il y a Jason Schreier qui taffe justement sur les conditions de travail chez Rockstar. Jason Schreier, c'est un mec qui a publié le bouquin qui s'appelle « Du sang, des larmes et des pixels », justement sur les conditions de travail dans le jeu vidéo, que je vous conseille. J'ai très très hâte de lire son enquête pour voir justement ce qu'il en retourne. À savoir que, pour terminer, Rockstar est quand même allé donner au Guardian, donc qui est un journal britannique très très influent, les statistiques d'heures travaillées entre le 8 janvier et le mois de septembre 2018, qui a priori est l'année où il y a eu normalement le plus de crunch sur Red Dead 2, et que la moyenne d'heures travaillées par semaine chez Rockstar, c'est entre 42,4 heures et 45,8 heures, avec une grosse période de crunch au mois de juillet, avec une moyenne à 50 heures. Là encore, c'est hyper intéressant parce que c'est des statistiques qu'on n'a jamais. Le vrai souci, c'est est-ce que c'est des statistiques qui sont pas aussi un peu faussées, parce que les studios de QA, on sait pas si c'est dedans.
Rappelons en plus que on est dans un milieu, on ne le dit jamais assez, où il y a plein de studios tiers qui produisent du contenu qui n'appartiennent pas à Rockstar, hein. C'est juste des studios qu'ils ont spécialisés là-dedans et qui te font tout ce qui est assets, etc., qui sont engagés par les gros studios pour faire ce taf-là. Et on n'a aucune idée, par exemple, de la pression qui a pu être mise sur ces prestataires-là.
Exactement.
Oui, et surtout, enfin, comme on dit, les chiffres, on pourra leur faire dire tout ce qu'on veut. On ne sait pas si ces chiffres-là concernent uniquement des horaires travaillés, par exemple, en Angleterre, parce que Rockstar North, c'est une boîte anglaise, ou bien si c'est des chiffres américains, ou bien si c'est les QA, justement, sont pris en compte ce qui a été fait en Inde. Enfin, permettez-moi d'en douter, mais on sait qu'en Inde, les conditions de travail sont encore plus misérables qu'aux États-Unis ou bien qu'en Angleterre.
Et puis, on rappelle aussi que pour comptabiliser des heures travaillées, il faut qu'elles soient déclarées par les employés. Si l'employé y déclare pas ses heures supplémentaires, parce que, je te dis n'importe comment, mais un supérieur lui a dit « à partir de maintenant, on n'accepte plus au-delà d'un tel seuil », ce que ça arrive, hein.
Bien sûr.
Et on peut très bien ne pas les avoir aussi dans ce contrat.
Ce n'est pas rare de voir un supérieur qui dit « t'es pas censé travailler plus de tant d'heures ». Ouais, sauf qu'on t'a quand même donné des objectifs, tu vois.
Exactement.
Et que par contre, alors t'es pas censé travailler plus de tant d'heures, mais par contre tu dois quand même remplir tes objectifs.
C'est ça.
Voilà, comment tu les fais, c'est pas mon problème, tu te démerdes. Et j'en connais des supérieurs comme ça. Donc bon, faut faire un peu attention, parce qu'effectivement, la contre-attaque de Rockstar, elle est plutôt pas mauvaise. Le vrai souci, c'est qu'est-ce qu'on sait pas derrière tout ça, tu vois. Pour moi, le problème, il est encore plus global que ça. C'est-à-dire que on parlait du fait que les gens avaient déjà adopté Red Dead 2 avant même sa sortie et étaient quelque part un peu crispés de commencer à apprendre qu'il se passe des choses un peu salaces derrière le développement d'un jeu comme ça. Pour moi, ça cristallise un truc qui est que l'industrie du jeu vidéo a des projets qui seront beaucoup trop pharaonique pour la timeline qu'elle s'impose. Certes, Rockstar fait partie de ces lieux de développement privilégiés où on a quelque part un temps infini, entre guillemets, pour produire quelque chose, mais c'est pas le cas de, déjà, toutes les productions AAA. Et l'air de rien, t'en es quand même à pousser tes employés à faire plus en termes d'heures. Donc quelque part, il y a la démesure du projet, juste histoire d'en envoyer encore plus à la tronche des gens, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'on ouvre les yeux sur la réalité du métier de développeur de jeux vidéo.
Et pas que chez les gros, d'ailleurs, je tiens à insister, parce que c'est pas mieux chez les petits. Hein.
Oui, oui, clairement.
Pour le coup, là, en plus, c'est des conditions financières aussi qui font qu'à un moment, on dit, bah écoute, on n'a pas le pognon, mais il faut qu'on sorte le jeu.
C'est ça.
Quoi, donc,
Et ce qui est impressionnant, c'est que là, pour le coup, chez Red Dead, il y a le pognon. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, il faut le sortir, le jeu. On est quasiment sur du quadruple A, en fait, avec un Red Dead 2. C'est-à-dire que l'ampleur du projet est telle que on est au-delà de la norme qu'on voit à l'heure actuelle dans l'industrie. C'est-à-dire que à chaque fois que tu lis une preview sur Red Dead 2, on te dit ça va créer un nouveau précédent dans l'industrie du jeu vidéo et dans le monde ouvert. C'est très bien tout ça, sauf que si toute l'industrie maintenant doit faire des crunch time à 100 heures par semaine de temps en temps, attention, hein, Dan Hauser nous dit que c'était de temps en temps, et au bout d'un moment,
enfin,
comment
surtout,
les
il
gens
a dit qu'ils
vont suivre en
quatre,
fait.
Ils étaient que 4 à avoir fait plus de 100 heures, il y avait lui et ses proches, quoi, enfin 3 amis à lui.
Bon, non, par contre, eux ils ont fait 80, mais ça compte pas, tu vois.
Ouais. Non mais tu vois, c'est au bout d'un moment, en fait, il faut devenir un peu réaliste et faire en sorte que la bulle dégonfle un peu, quoi. Qu'il y ait une espèce d'entente et de bon sens dans un milieu où tout est en train de devenir tellement gros que c'est juste pas possible de pas exploiter tes employés. Donc il faut faire attention à ça, quoi. Et c'est pour ça, à mon avis, que cette polémique, elle est tellement importante. Même s'il n'y a pas eu a priori autant de crunch time que ça, faut faire la lumière là-dessus et vraiment regarder les choses en face, quoi.
Mais surtout qu'il faudrait mettre l'humain au centre du débat, tout simplement. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'il faut prendre en compte. Pour n'importe quelle situation, en fait, que ça soit un gros jeu ou un petit jeu, enfin, il y a aucune explication qui puisse permettre, en fait, d'exploiter la misère humaine, tout simplement. J'étais choqué de voir sur Internet des gens, justement, défendre Red Dead 2. Admettons que c'est le meilleur jeu de tous les temps. D'accord, mais si il y a des gens qui ne voient plus leur famille pour ça, s'il y a des gens qui justement, parce qu'il y a aussi des problèmes psychologiques qui après qui sont liés à ces périodes de crunch.
Mais en plus, le pire, c'est que derrière, l'argument qu'on te sort, c'est ouais, mais tu comprends, quand t'es dans un métier créatif, etc. À un moment donné, oui, effectivement, tu comptes plus tes heures, c'est normal. Attendez, les gens, je dis pas qu'il faut qu'ils fassent 35 heures par semaine, tu vois. Mmh. Hein, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'à un moment donné, ce sont des êtres humains qui ont un corps, tu vois, qui va leur dire stop.
Mmh. C'est ça.
Et que 100 heures par semaine, c'est pas juste, tu vois, un truc à se dire, ouais, je vais faire ça de temps en temps. Non, c'est de la folie, en fait. Et ouais. Que à un moment donné, quand c'est tu ça, en arrives au stade où tu te détruis la santé pour créer quelque chose, faudrait peut-être qu'on te force à arrêter, en fait, tu vois, limite.
Oui, parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu travailles trop, ça veut dire que tu dors plus assez, et au final, tu vas passer plus de temps à rattraper les erreurs que tu fais parce que t'es crevé.
C'est ça.
Que à faire correctement les choses si t'étais correctement reposé. Donc il faut faire attention à ça. Parce que bon, évidemment, certaines personnes nous disent que pour faire quelque chose d'exceptionnel, il faut se donner de manière exceptionnelle. Pas forcément. Est-ce qu'on peut aussi créer des choses en gardant un petit peu sa raison? On va quand même pas me dire que tous les chefs-d'œuvre qui ont été créés dans le monde ont été faits à l'insu du bien-être physique et psychologique de la personne qui l'a créé. Quand même, faut arrêter de déconner.
Tu parlais spécifiquement des studios de développement qui n'étaient plus, entre guillemets, à l'échelle humaine. Alors, on peut penser par exemple aussi à des jeux comme Assassin's Creed, une licence où il y a au moins 10 studios de développement à travers le monde qui travaillent par bribes sur chaque élément de gameplay, puis après sont rassemblés. Sur un jeu comme Assassin's Creed Origins, c'était plus de 1000 personnes qui avaient bossé dessus. Voilà, enfin, au bout d'un moment, on sent que cette industrie fait une course folle.
Ouais.
On veut toujours en faire plus, toujours en faire plus grand. Par exemple, regardez quand un jeu est annoncé, surtout les jeux en open world, la première chose qui est mise en avant souvent, c'est que notre jeu sera plus grand que le précédent. Déjà, est-ce que plus grand veut dire forcément plus qualitatif? Ça, c'est, je pense pas. Mais en plus de ça, c'est que on a l'impression que cette course, en fait, ne va jamais se terminer. Il y a des développeurs qui parlent déjà de la future génération de consoles et qui disent non, mais ça va pas nous aider de la future génération de consoles, même si elle va être sur une architecture assez similaire. Il y a des technologies qui vont arriver qui vont faire que, bah, justement, on va devoir combler ce retard par d'autres manières et ça nous fait peur pour l'avenir. Enfin, ça, c'est des discours que j'ai entendus.
Ouais. Au sujet des développements façon Ubisoft, c'est assez intéressant justement, je vous renvoie à l'article de William Oduro sur les conditions de travail de Rockstar où justement, alors c'est, non c'en est un autre, je vous filerai le lien, c'est un article qui revient justement sur les conditions de travail en général dans le jeu vidéo et comment de nos jours, certains studios, notamment Ubisoft, ont fait en sorte d'essayer d'appliquer un peu de raison et de bon sens dans ce genre de projet-là. Et ils parlent justement des développements d'Assassin's Creed, où, certes, t'en as deux qui sortent en deux ans, mais ce sont des projets qui sont conjoints, finalement. Le Odyssey et le Origins ont été développés quasiment au même moment, avec
ça
des
se voit d'ailleurs.
Ça
on
se voit beaucoup.
Durant le test.
Ça se voit, et c'est des choses qui sont aussi faites pour réduire la masse de travail qui est imposée aux différentes équipes. Mais là où ça me fait peur, c'est que on parle de Red Dead 2 comme un futur maître étalon qu'a pu être Red Dead en son temps. Ouais, mais moi j'ai pas envie de voir ça en fait. J'ai pas envie que ça continue encore dans la surenchère et que par la même occasion les développeurs chez des AAA continuent à s'éreinter comme ça.
Bah, surtout quand tu vois que Nintendo fait la démonstration à côté, qu'il n'y a pas besoin d'être à la pointe de la technologie pour innover quoi.
Ouais, bah, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à tout ça quoi. Et j'ai quand même hâte de voir ce que les journalistes vont pouvoir essayer d'élucider dans ce micmac-là. Où est, quelque part, le juste milieu entre c'est tout noir, c'est tout blanc, pour savoir un petit peu dans quelles conditions véritables a été produit Red Dead 2.
Mais sinon, des gens qui font 100 heures par semaine, c'est beaucoup. Mais dans ces 100 heures par semaine-là, il n'y a pas moyen d'embaucher d'autres personnes, justement, pour diminuer le nombre d'heures faites par une personne. Je sais pas, peut-être que si les studios de développement embauchaient à la limite de leurs ambitions, peut-être que les périodes de crunch time, ça serait beaucoup moins importante que ça. On dirait que même sur des jeux comme Red Dead Redemption 2, qui ont des budgets gargantuesques, ne veulent pas embaucher le nombre de personnes nécessaires pour mener à bien leur projet dans des conditions de travail normales.
Mais le truc, c'est qu'il y a un stade, en fait, où c'est pas le fait d'embaucher quelqu'un supplémentaire qui va aider à mieux produire.
C'est ça.
Tout simplement, il faut prendre le temps, quoi. Enfin, moi, je suis désolé, il faut prendre le temps, voilà. Et si à un moment donné, t'en es à un stade où tu dis « Non, mais pour développer ce truc-là, dans un temps raisonnable, c'est pas possible », faut peut-être te poser des questions sur ton projet, quoi, en fait. De base, quoi. Moi, c'est ça, vraiment, qui me... Enfin, voilà. Écoutez, messieurs, moi, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine.
Ouais.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Salut et jouez bien.